Chapitre 19, un temps de détresse. J'ai vu venir une plus grande détresse que celle que nous avons connue. De grandes armées se livraient bataille et j'ai entendu le fracas des canons, le choc des armes, le bruit des combats corps à corps, les gémissements et les prières des mourants. Le sol était couvert de blessés et de morts. Des familles étaient plongées dans le désespoir. D'autres, en grand nombre, souffraient du plus cruel dénuement. Déjà maintenant, il est des familles dans le besoin, mais cela ira en augmentant. J'ai vu de nombreux visages hagards et marqués par la faim. Les enfants de Dieu devraient vivre unis par les liens de l'amour chrétien. Dieu seul peut être notre retraite et notre force en ce temps de calamité nationale. Le peuple de Dieu devrait se réveiller. Il faut profiter des occasions de répandre la vérité, car elles ne dureront pas longtemps. J'ai vu la détresse, l'angoisse et la famine dans le pays. Satan cherche à tenir le peuple de Dieu dans l'inaction, à l'empêcher de répandre la vérité, afin qu'il soit psé, et trouvé trop léger. Le peuple de Dieu doit prendre garde aux signes des temps. Les signes de la venue du Christ sont trop clairs pour être mis en doute, et à leur vue tous ceux qui professent croire à la vérité devraient devenir des prédicateurs pleins de vie. Dieu nous appelle tous, prédicateurs, laïcs, à nous réveiller. Le ciel tout entier est en état d'alerte. Le rideau descendra bientôt sur le dernier acte de l'histoire du monde. Nous traversons les périls des derniers jours, mais les plus grands dangers sont encore devant nous, et cependant nous dormons. Ce manque d'activité et de zèle pour la cause de Dieu est effrayant. Cette stupeur mortelle vient de Satan. Il garde sous son contrôle les esprits des observateurs du sabbat non consacré, les amène à se jalouser et à se censurer mutuellement. C'est sa spécialité de semer ainsi la division afin que l'influence et la force des serviteurs de Dieu soient retenues à l'intérieur de l'Église et qu'un temps précieux soit occupé à régler des différends sans importance, alors qu'il devrait être employé à proclamer la vérité à ceux du dehors. C'est le moment d'agir. Il m'a été montré que le peuple de Dieu s'attendait qu'un changement survienne, qu'une puissance contraignante s'empare de lui. Mais il sera déçu dans cette attente. Il faut agir, il faut se mettre au travail et demander à Dieu avec instance de nous donner une exacte connaissance de nous-mêmes. Les scènes qui se déroulent devant nous sont assez impressionnantes pour nous inciter à nous éveiller et à communiquer la vérité à tous ceux qui voudront l'entendre. La moisson du monde est sur le point de mûrir. J'ai vu combien il est important que les prédicateurs qui s'engagent dans l'œuvre solennelle de la proclamation du message du troisième ange aient une vie sanctifiée. Le Seigneur n'est pas à court de moyens ni d'instruments. Il peut se faire entendre à quelque moment que ce soit, et par qui il veut. Sa parole est puissante et elle ne retournera pas à lui sans effet. Mais si la vérité n'a pas sanctifié les mains et le cœur de son ministre, celui-ci est exposé à parler selon une expérience personnelle imparfaite. Lorsqu'il parle de lui-même, selon ce que lui dicte son propre jugement non sanctifié, son conseil n'est pas celui de Dieu, mais le sien propre. Or, celui qui est appelé par Dieu est appelé à être saint. De même, celui qui est mis à part doit rendre évidente sa sainte vocation par une conduite et une conversion empreintes des grâces célestes, afin de prouver sa fidélité à celui qui l'a appelé. Il y a de terribles malédictions pour ceux qui prêchent la vérité, mais ne sont pas sanctifiés par elle, et également pour ceux qui consentent à maintenir dans ses fonctions un ministre de la parole non sanctifié. Je suis alarmé pour les enfants de Dieu qui professent croire une vérité importante et solennelle, car je sais qu'il en est beaucoup qui ne sont ni convertis, ni sanctifiés par elle. Les hommes peuvent entendre toute la vérité et y acquiescer, sans connaître toutefois la puissance de la piété. La vérité ne sauvera pas tous ceux qui la prêchent. L'ange dit, « Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Le temps est venu où ceux qui ont choisi le Seigneur pour leur part présente et future ne doivent se confier qu'en lui. Quiconque fait profession de piété doit avoir une expérience personnelle. Un ange enregistre fidèlement les paroles et les actes du peuple de Dieu. Ceux qui prétendent croire à la vérité devraient se mettre eux-mêmes en règle et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éclairer les autres et les gagner au Christ. Leurs paroles et leurs œuvres sont le canal par lequel les principes de la vérité et de la sainteté sont communiqués au monde. Ils sont le sel de la terre, la lumière du monde. Si nous regardons en haut, nous verrons la lumière et la paix, mais si nous regardons au monde, il nous semblera que tout refuge nous manquera bientôt. Il n'y a de secours pour nous qu'en Dieu. Dans l'état actuel de confusion du monde, nous ne pouvons avoir le sentiment d'être en sécurité que par la vertu d'une foi vivante. Nous ne serons en paix que si nous nous reposons en Dieu et attendons de lui le salut. La lumière qui brille sur nous est plus grande que celle qui a brillé sur nos pères. Mais nous ne pouvons être acceptés et honorés de Dieu en le servant de la même façon qu'ils l'ont fait. Pour que Dieu nous accepte et nous bénisse, comme il les a acceptés et bénis, nous devons imiter leur foi et leurs œuvres, marcher selon la lumière qui nous a été donnée comme ils ont marché selon la lumière qu'ils avaient reçue. En somme, agir comme ils agiraient s'ils étaient à notre place. Il faut marcher dans la lumière qui brille sur nous, ou cette lumière se changera en ténèbres. Dieu nous demande de faire connaître au monde, par notre caractère et nos œuvres, l'esprit d'unité qui s'accorde avec les vérités sacrées auxquelles nous croyons, et avec les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. La vérité qui a atteint notre intelligence et la lumière qui a pénétré jusqu'à notre âme, nous condamneront si nous nous en détournons et refusons d'être conduits par elle. Des scènes terribles sont devant nous. Que dirais-je pour réveiller le reste du peuple de Dieu? J'ai vu que des scènes terribles étaient devant nous, Satan et ses anges mettent toutes leurs énergies à s'opposer au réveil du peuple de Dieu. Ils savent que si l'Église reste endormie un peu plus longtemps, elle court à sa perte. J'invite tous ceux qui confessent le nom du Christ à s'examiner avec soin, à faire une sérieuse confession de leurs torts, afin de pouvoir subsister au jour du jugement, et que l'ange puisse écrire en face de leur nom, pardonnez. Mon frère, ma sœur, si vous ne profitez pas de ces précieux moments de la miséricorde divine, vous serez sans excuse. Si vous ne vous efforcez pas de vous réveiller, si vous ne faites pas preuve de zèle dans la repentance, le temps passera rapidement, et vous serez trouvé trop léger dans la balance céleste. Alors, vos cris angoissés ne serviront à rien. À vous s'appliqueront les paroles du Seigneur, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasiront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal.